16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous le savez, chers auditeurs, Stéphane Bern est quelqu'un qui se distingue par sa classe et son élégance de chaque instant.
Oui,
chaque
oui,
instant, sauf l'instant du quiz. Ce quiz redoutable qui, jour après jour, érode un peu plus la réputation de type calé en histoire de Stéphane, car il affronte la terrible Clémentine Portier-Kaltenbach. D'abord, respectueux de son adversaire, au fil des défaites, Stéphane la présente de manière de plus en plus biaisée, afin de la déstabiliser psychologiquement.
Elle a 47 ans, mais... Oui. Elle en paraît 20 de plus. Elle
non.
est complètement ruinée
oui.
par les excès d'alcool.
Mais non.
Et
les souffrances de la vie. Oui, non, Stéphane, je vous en prie, un peu de fair play. Jouons à Bern to be alive, notre fameux quiz. Alors aujourd'hui, comme on a la chance d'avoir Philippe Deluc, l'auteur du Chat, en studio avec nous.
D'ailleurs, qu'il
Je rappelle, Stéphane, si vous ne l'avez pas encore lu, le Chat est parmi nous. La nouvelle bande dessinée, les nouvelles aventures du Chat. Idéal pour vivre ce confinement et pour vivre les fêtes qui arrivent. Et Philippe Deluc étant avec nous, on fait un quiz évidemment spécial Belgique et spécial Chat. C'est une doublette aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. Stéphane, première question pour vous. Vous avez le droit de vous servir de Philippe comme d'un super joker. Lui demander conseil pour vous orienter, et Dieu sait que vous allez en avoir besoin. Question 1 pour vous, Stéphane. Baudouin Ier a été le roi des Belges durant 42 ans et 14 jours. Il nous a quittés, surtout les Belges, en juillet 1993. Durant son règne...
31 juillet.
Oui, bah, je vous demande pas.
À quelle heure,
Philippe, c'est typique de Stéphane. Il apporte des réponses qu'on n'a pas
posées.
Questions qu'on n'a pas posées.
À quelle heure, Stéphane, vous pouvez le préciser?
Je sais pas,
C'était le soir.
À Motril, en Espagne.
Oui, bah, d'accord, mais bon, bref, ce n'est pas la question. Durant son règne de Baudouin Ier, il a été déclaré comme dans l'impossibilité de régner durant 36 heures. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. C'était au moment où il a refusé de signer la loi sur l'avortement.
Vous avez gagné.
Alors là, vous me bluffez, Stéphane. Vous n'avez même pas eu besoin de l'aide de Philippe Deluc, qui le savait aussi.
Bien sûr, j'aurais pu.
Évidemment, c'était en 90, fervent catholique. Il ne voulait pas ratifier la loi dépénalisant l'avortement. Le Conseil
des
ministres...
Il acceptait que la loi puisse passer. Et donc, ils ont trouvé une subtilité, c'est de déclarer le fait que...
Il était d'accord avec ça. En fait,
oui,
il ne pouvait pas faire autrement. La Constitution veut que le roi signe les lois.
Ouais.
Mais il n'a pas à donner son avis, il n'a aucun pouvoir politique.
Oui, bien sûr, oui.
Le trône a été déclaré vacant pendant 24 heures.
Non, il a été déclaré incapable pendant 36 heures.
Dans l'incapacité de
régner. Oui. Le temps de voter, et il a été réhabilité juste après.
Et je vous renvoie à un texte sublime de Frédéric Mitterrand qui a dit, parce que tout le monde criait au scandale, etc., en disant, mais peut-être qu'on doit se poser la question sur est-ce que les rois n'ont pas le droit à avoir aussi une conscience un jour, une fois de temps en temps, pendant 36 heures. Et c'était un très beau texte, d'ailleurs.
Oui, je pense qu'un roi doit pouvoir éventuellement ne pas ratifier un texte qui va contre sa conscience, et d'autant plus qu'on est dans une monarchie constitutionnelle dans laquelle le souverain
n'empêche pas la loi d'être ratifiée.
Il ne peut pas s'exprimer contre la souveraineté nationale.
Non, surtout un homme qui a désiré plus que tout avoir des enfants et la reine Fabiola n'a pas pu lui en donner.
C'est terrible. Je ne le savais pas. Je suis ému. Stéphane, c'était une question Belgique. Donc la question chat, c'est pour Clémentine. En Angleterre, au XVIIIe siècle, George III était un amoureux des chats. Tous les Londoniens qui adoptaient un chat abandonné dans les jardins de Buckingham Palace se voyaient offrir une entrée gratuite à la ménagerie royale. George IV, qui n'en avait rien à faire, a arrêté cette pratique sitôt arrivé au pouvoir. Vrai ou faux?
Je pense que ça peut être vrai, parce que George III était quand même souffrant de porphyrie aiguë, cinglé. La porphyrie, c'est le porphyre, c'est rouge, voyez, le porphyre comme le tombeau de Napoléon. Donc c'est une maladie sanguine. Mais ce qui m'étonne...
Vous n'avez pas vu La Folie du roi George, très bon film.
C'est que George III était extrêmement radin. Il avait fait arrêter le chauffage dans les serres de Kew, qui tous les orangers ont crevé. Donc le fait qu'il donne de l'argent contre un chat, c'est ça qui m'intrigue dans cette histoire. Son fils était vraiment un médiocre absolu, que son fils ait interrompu cette mesure tout à fait généreuse vis-à-vis des chats, ça ne m'étonne pas du tout non plus. Est-ce que la question, c'est est-ce que son fils a arrêté ou est-ce que George III a inauguré?
Non, ça c'est une information que je vous donne.
Je pense que George IV est un souverain à mes yeux extrêmement antipathique et vain.
Donc il a fait
et snob. Je pense que oui, il a pu arrêter de donner une pièce au chat qui était récupérée, oui.
Vous avez perdu.
Oh.
Ben non, elle a gagné.
Je propose qu'on on fasse un petit
vous changez les règles, au montage. Là maintenant. Voilà, au montage, ils vont
donc
pour
vous
éviter
avez gagné.
Que vous perdiez.
Non, c'était faux. Va... Ah non, pardon, t'as dit que c'était vrai qu'elle avait arrêté. Pardon, d'accord. Ah oui, attends,
j'ai dit que oui, que c'était vrai que son fils avait pu arrêter.
Oui, oui, mais oui, non, c'est faux.
En
vous
fait,
avez
c'est
perdu,
faux.
Clémentine.
Oh,
non,
dame
Nade. Oh là, dame Nade. Non, en revanche, si à la même époque vous veniez avec votre chat à la ménagerie, vous n'aviez pas à payer. En revanche, vous donniez votre chat à manger au tigre. C'était la tradition.
D'accord.
Quelle belle tradition. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Question chat. Aussi, en 1929, deux scientifiques du New Jersey ont réussi à transformer un chat vivant en téléphone. Et ça fonctionnait très bien. Vrai ou faux? Je précise que je n'ai pas bu avant de prononcer cette question.
C'est une question d'histoire, hein, il faut le savoir.
C'est une question d'histoire, on est en 1929, il y a eu deux, trois événements cette année-là. Mais il y a eu aussi cet événement-là. Je vous pose la question, est-ce que d'après vous c'est vrai? Un chat vivant qui s'est transformé en téléphone?
Ça a l'air vrai, hein, comme ça.
Ça a l'air vrai. Réfléchissez.
Mais je ne peux pas. Je
réfléchis à quoi?
Oui, essayez de réfléchir à haute voix, comme ça vous fallait profiter de... Alors, du cheminement intellectuel.
Mathieu, est-ce que
ça
c'était un sans fil ou est-ce que c'était...
C'était en 4G ou en 5G?
Voilà.
Non.
Un chat branché sur une électrode et qui faisait miaou quand le téléphone sonnait.
Stéphane, je crains
très
qu'il va y répondre.
Et ils ont branché l'animal sur une source... Sur un...
Je ne suis pas allé si loin dans le détail.
Non.
Je vous demande si un chat est devenu un téléphone par l'entremise d'une expérimentation.
Et vous parliez où? Dans l'oreille.
Sa tête, on vous dit juste, on vous donne un indice, sa tête était malade.
Oui, alors je dirais oui. Oui, sa tête, je me parle à mon truc parce que ma tête est malade.
Oui, mais je ne sais pas qui est malade là-dedans, mais nous allons voir la réponse.
Vous avez...
Il a gagné, oui, vous avez gagné, les enfants,
quoi.
Ne faites pas ça
non,
chez vous. Écoutez bien, les deux scientifiques ont relié le nerf auditif d'un chat à des électrodes sur amplificateur. Quand on parlait dans l'oreille du chat, on entendait l'interlocuteur un peu plus loin dans une enceinte. On a tué le chat pour voir si c'était vraiment lui qui entendait, et en effet, la communication a coupé. Ça a l'air cruel, mais c'est ainsi qu'on a mis au point les premiers implants permettant aux malentendants d'entendre.
On finit toujours par le haut.
C'était pas simplement pour s'amuser.
Non.
Et le chat était malade.
Oui, je vous en prie.
Il n'entendait plus très bien, paraît-il.
Dernière question pour vous, Clément. Question Belgique. Vous avez le Joker que lui.
Oui, moi je m'attendais à des questions sur Godefroy de Bouillon et
Man
Can Peace.
C'est pas un quiz historique, on vous l'a dit.
Question historique sur la Belgique. Depuis le 7 février 1831, les symboles nationaux du pays sont fixés. Or, si on lit la constitution de la Belgique et si on regarde le drapeau, on constate une erreur. Vrai ou faux?
Alors, quels sont les symboles de la Belgique? Le drapeau rouge, jaune et noir, ça, c'est les couleurs du Brabant. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il y a sans doute, j'imagine, des armoiries qui sont celles des Côtes Gotha.
L'union fait la force, qui est la devise nationale.
Exactement.
Eendracht maakt macht.
Vous parlez flamand?
Bravo.
Oui. Je parle, bien sûr.
La Brabançonne est son hymne national.
Composé par Van Kampenhout.
Beaucoup de réponses, c'est toujours pas la réponse à la question que j'ai posée.
Alors, il y a sans doute une erreur, je pense. Sinon, je vois pas quel serait l'intérêt de la question. Puis, comme je me suis déjà planté sur les chats et Georges III, je préfère sombrer avec élégance en répondant « c'est vrai ».
Vous avez gagné.
Et oui, il y a une erreur. Depuis 190 ans, les Belges ont une constitution où il est écrit, on l'a dit, que la devise est « l'union fait la force » et que son drapeau est rouge, jaune et noir. Or, si on regarde le drapeau...
Or, il est noir, jaune et rouge.
Toujours selon la constitution, les bandes devaient être horizontales. Elles sont verticales dans ce pays. On ne fait jamais rien à l'endroit, Philippe Geluck.
Ah, mais je l'ignorais.
Vous l'ignoriez?
Je l'ignorois.
Alors si il l'ignorois, c'est vraiment que ce quiz était intéressant. Bravo, c'est Stéphane Bern qui l'emporte.
Bravo Stéphane.
C'est la présence de Philippe qui vous a porté chance.